Et c'est une notion qui donne le vertige aux hommes depuis la nuit des temps, celle de l'infini. Dès l'Antiquité d'ailleurs, l'infini a suscité passion et controverse. Au fil de l'histoire, de nombreuses disciplines se sont construites en intégrant l'infini dans leurs travaux. C'est le cas des mathématiques, de la physique, de la cosmologie. Avec mes invités, nous allons essayer de comprendre ce que représente l'infini, si on peut le mesurer et comment l'intégrer dans les concepts scientifiques. Une infinité de questions avec vos messages qui arrivent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui l'arche de Noé des graines menacées par la fonte des glaces.
Oui Mathieu, le coffre-fort des semences de l'humanité construit dans le permafrost de l'île de Svalbard en Norvège prend l'eau à cause du réchauffement climatique. On en discute avec le généticien et conservateur Jean-Louis Pham.
Voilà pour le sommaire de cette tête au carré réalisée par Stéphanie Texier et préparée par Chantal Le Montagnier avec Benoît Tonzon.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et c'est donc l'infini qui va nous interroger cet après-midi dans le dossier avec mes invités que je salue, l'astrophysicien Marc Lachaiseret, les mathématiciens Jean-Jacques Cessignard et Hugo Duminil-Copin. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Jean-Jacques Cessignard, est-ce que ça fait longtemps que l'infini est un problème pour les hommes ?
Pratiquement depuis que la science, depuis que l'histoire, depuis que l'humanité existe, c'est un problème pour les hommes. Et les attitudes ont varié à l'égard de cet infini. On va en reparler, bien sûr. Mais il y a une histoire de l'infini et une histoire des conceptions de l'infini, de très nombreuses polémiques qui traversent toutes les disciplines. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas beaucoup changé.
Et on va dérouler cette histoire avec vous dans un instant. Marc Lachaiseret, est-ce que l'espace en tant que monde infini, c'est aujourd'hui une question tranchée ou pas ?
Pas totalement, mais enfin, sur le plan conceptuel, au moins, on s'est débarrassé de difficultés insurmontables, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas avant à penser l'infini. Et aujourd'hui, grâce à la relativité générale d'Einstein et grâce aux mathématiques sur lesquelles elle s'appuie, eh bien, on peut au moins conceptualiser l'univers avec un espace fini ou un espace infini sans qu'il y ait de paradoxe ou de difficulté logique. Quant à savoir si notre espace physique est
vraiment
ou
infini,
n'est pas infini, ouais. Ça, aujourd'hui, on ne le sait pas.
Ouais. Hugo Duminil, les mathématiques sont envahies par la question de l'infini ou pas ?
Elles l'ont été pendant très longtemps parce que c'est ce qui faisait résister, on va dire, la rigueur. Il y avait des preuves qui n'étaient pas rigoureuses parce qu'il y avait ce manque de concept d'infini. Et paradoxalement, depuis qu'on a ce concept d'infini, on le retrouve partout en mathématiques, dans toutes les disciplines, l'infiniment grand et l'infiniment petit.
Allez, on en donnera des exemples évidemment avec vous dans quelques minutes et avec les questions des auditeurs auxquelles vous répondrez. Ils nous rejoignent sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Svalbard, le coffre-fort norvégien, la réserve mondiale de semences de l'humanité qui prend l'eau à cause du réchauffement climatique et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Préserver la diversité des cultures vivrières, c'est la mission de la réserve mondiale de semences du Svalbard, située tout près du Groenland, en territoire norvégien. Au beau milieu de ce paysage polaire, émerge un bloc de béton. C'est en fait la porte d'entrée vers une chambre forte creusée dans la montagne à 120 mètres de profondeur.
Voilà, et ce complexe de Svalbard conçu à l'initiative de l'ONU et qui se trouve donc en Arctique, destiné à conserver les graines de toutes les cultures vivrières de la planète, et bien 10 ans après sa construction, ce coffre-fort censé traverser les temps pour des millénaires a été victime la semaine dernière d'une inondation causée par la fonte des sols gelés et avec un incident qui pose aujourd'hui la question de la conservation du patrimoine végétal. Jean-Louis Pham, bonjour, vous êtes avec nous en ligne ? Vous êtes généticien pour l'IRD et coordinateur de la banque de graines ARCAD et membre du conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et puis dans ce studio avec nous, comme tous les lundis, Hervé Kempf, le rédacteur en chef du magazine Reporter. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière sur l'île de Svalbard, dans le cercle polaire arctique, lieu que vous connaissez, que vous avez d'ailleurs visité, hein ?
Absolument. C'est donc une petite ville dans l'archipel du Svalbard ou du Spitsberg, la ville la plus au nord puisqu'elle est à moins de 1200 km du pôle nord. Et c'est là, normalement, il fait très froid.
Ouais.
La nuit règne une grande partie de l'année. Et même en ce moment, en avril-mai, le soleil se couche très tôt et la nuit est très longue. Et on a, en 2008, ouvert une cavité très profonde. Imaginez à quelques centaines de mètres de l'eau, de l'océan Arctique glacial, et bien une colline sèche dans laquelle on a creusé une grande cave de béton, en fait un long tunnel de 120 mètres de long fermé par deux portes massives et au fond d'autres portes qui ouvrent sur trois caves immenses et dans lesquelles il n'y a rien de très spectaculaire, il y a des étagères sur lesquelles sont entassées des boîtes de plastique noir qui contiennent en revanche des choses extraordinaires qui sont des semences. Et donc c'est ce lieu qui est refroidi en permanence normalement à 18 degrés et on l'a installé là, c'est le gouvernement norvégien qui l'a installé là parce qu'on pensait que ça serait froid et donc extrêmement sûr, les meilleures conditions de conservation sur ces semences. On n'imaginait pas que le permafrost, le pergélisol pourrait fondre et c'est précisément ce qui s'est passé cette semaine. Il y a eu cet hiver un réchauffement extraordinaire de l'Arctique et normalement il doit neiger à ce moment-là. Là, il a plu. La neige aux alentours a fondu et de l'eau s'est engouffrée au début du tunnel mais n'a pas pénétré quand même dans les caves en profondeur.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement, Jean-Louis Pham ? Est-ce que ça vous a inquiété tout d'abord ?
Oui, c'est toujours inquiétant qu'un événement comme ça puisse se produire dans un lieu qui en principe a été conçu pour préserver de façon extrêmement sûre le patrimoine génétique des plantes cultivées, une réserve mondiale pour l'humanité. Et puis ça ramène à pas mal de modestie aussi. Ça nous fait penser aussi aux incidents que nous vivons dans nos banques de gènes régionales ou nationales.
Alors quelle est la fonction exacte de cette cave de luxe, si on peut le dire comme ça, en Norvège ?
Alors là, voilà, cette cave de luxe, comme vous l'appelez, alors je peux préciser aussi que les semences ne sont pas conservées à 18 degrés, mais elles sont conservées en température négative, à moins 30 degrés, je crois. Donc à Svalbard sont conservés des duplicatas de collections. Donc ce ne sont pas des collections d'origine, ce sont des institutions de par le monde, des banques de semences nationales, régionales ou internationales, qui envoient à Svalbard un double de leur collection pour les conserver et les récupérer en cas d'accident dans leur propre collection.
C'est en quelque sorte l'archive des archives.
C'est exactement ça.
Dans le froid, les graines peuvent se conserver combien de temps ? Elles peuvent rester fertiles ad vitam aeternam ?
Non, on n'a pas, là, je vous entendais parler d'infini, on n'est pas sur une notion d'infini en matière de conservation de semences, mais ça peut se conserver plusieurs dizaines d'années en fonction des espèces, en fonction aussi des conditions dans lesquelles ces semences sont entrées en conservation. C'est-à-dire qu'on va souvent abaisser le taux d'humidité d'une semence pour mieux la conserver au froid.
Et donc, il faut renouveler les graines dans les archives pour qu'elles restent fertiles et qu'on puisse l'utiliser ?
C'est tout à fait ça. Les collections rafraîchissent leurs collections régulièrement, c'est-à-dire qu'on sort des échantillons des banques de semences et on met ces semences en germination, on obtient de nouvelles plantes qui produisent de nouvelles graines et on prend ces nouvelles graines pour les remettre en conservation. Donc on rafraîchit les collections régulièrement. Donc ça se fait dans les collections, dans les banques de semences d'origine dont je parlais, les banques de semences nationales ou régionales ou internationales, mais ça ne se fait pas à Svalbard. Svalbard, justement, les semences qui rentrent n'ont pas vocation à en ressortir autrement que pour être rendues à leur banque de semences d'origine.
Mais est-ce qu'il vaudrait... Il y a un nombre de semences, pour l'instant il y a 800 000 échantillons à Svalbard pour 4 000 espèces à peu près. Est-ce qu'il est possible de les maintenir in vivo, c'est-à-dire en culture réelle, toutes ces semences, pour éviter les risques qui pourraient arriver à ces banques ?
Alors, les conserver in vivo, in natura, c'est assez difficile. On a quand même dans les banques de semences une partie des collections qui sont constituées de variétés qui ne sont plus en culture aujourd'hui, qui ne sont plus forcément adaptées aux conditions climatiques ou aux conditions phytosanitaires de leur milieu. Donc c'est des semences qui seraient assez difficiles à maintenir in vivo, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on s'intéresse beaucoup à la complémentarité des approches de conservation, à savoir à la fois conserver des semences dans des banques de semences de type... du type dont je parlais, et avec des doubles à Svalbard par exemple, mais aussi à promouvoir des modes de conservation dit in situ ou à la ferme, où là on va promouvoir la culture, la conservation par les agriculteurs de variétés de plantes cultivées.
Mais Svalbard, c'est un lieu utile de conservation pour vous, Jean-Louis Pham ?
J'ai tendance à dire que si Svalbard n'existait pas, il n'est pas certain certains qu'il faudrait le construire tel qu'il a été conçu. Mais puisqu'il est là, je pense qu'il faut savoir en profiter. C'est aujourd'hui un des éléments d'un dispositif mondial de conservation de la diversité des plantes cultivées.
Mais justement, on se rend compte que Svalbard est menacé. Est-ce qu'il faut pour vous la renforcer ou au contraire revoir la manière de conserver les archives, des archives du patrimoine végétal de l'humanité ?
Aujourd'hui, je crois qu'il y a un bilan technique. Je ne suis pas très au courant techniquement de l'incident qui s'est passé la semaine passée à Svalbard. Donc il faut déjà voir si est-ce que c'est un incident extrêmement grave qui remet en cause l'infrastructure elle-même ou est-ce que c'est quelque chose qui est colmatable à peu de frais. Donc il faut d'abord faire un premier bilan technique de ce qui s'est passé à Svalbard. Mais encore une fois, Svalbard, c'est un des éléments d'un dispositif mondial. Et puisque ça existe, il faudra pouvoir s'en servir. Il faudra aussi ne pas oublier les banques de semences qui font leur travail dans tous les pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Asie. Et puis essayer d'articuler tout ça pour optimiser la conservation.
Une dernière question. Avec les techniques de séquençage et d'édition de l'ADN, on se rend compte que ces domaines avancent très vite. Est-ce qu'on pourra un jour se passer des graines et simplement se contenter de stocker les codes génétiques ?
Aujourd'hui, l'information, c'est vrai, l'information associée aux banques de semences, aux ressources génétiques des plantes cultivées, notamment sous forme de séquences d'ADN, elle devient de plus en plus précieuse. Maintenant, on est encore assez loin de pouvoir recréer un organisme vivant à partir de la seule donnée de séquence. Donc, même si ces données prennent de plus en plus de valeur, on aura encore besoin longtemps, je pense, des ressources génétiques de la semence. Et c'est vrai que de plus en plus, on va travailler et les améliorateurs de plantes vont travailler en combinant données de séquences, données sur le génome et puis le matériel vivant à travers la semence.
Hervé, concrètement, ça pourrait très vite servir à quoi ces banques de graines ? Alors, on pourrait s'en servir pour quoi ?
Ben c'est peut-être un petit peu la question qu'il faut rappeler. À quoi ça sert ? Est-ce qui, eh bien, d'avoir cette diversité ? Parce que pour l'instant, en fait, les grandes plantes cultivées, on vit sur un stock de seulement 200 espèces, alors qu'on l'a vu, il y a un nombre de variétés et d'espèces beaucoup plus grandes. Donc, l'idée, c'est d'avoir des secours dans le cas où, pour des raisons de sécheresse ou d'évolution climatique, certaines espèces ne seraient plus adaptées.
Dossier sur lequel vous revenez sur reporter.net et dès demain. Merci beaucoup, Jean-Louis Femme, pour vos explications. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, sur l'autre pôle de notre planète, l'Antarctique, eh bien, ça reverdit de plus en plus vite sous l'effet du changement climatique, là encore. Les mousses sont en train de pousser rapidement sur les parties du continent qui dégèlent pendant l'été. C'est une équipe de scientifiques anglais qui a mis au jour ce phénomène, qui montre donc un retour en arrière à l'échelle des temps géologiques avec une concentration de CO2 atmosphérique équivalent à celle d'il y a 3 millions d'années. Les auteurs de l'étude prédisent que si les émissions de gaz à effet de serre continuent à s'élever sans contrôle, l'Antarctique pourrait se couvrir à nouveau dans un temps très long de forêts comme au temps des dinosaures. Les créationnistes contre le Yellowstone, un géologue australien attaque en justice le ministère de l'Intérieur américain pour discrimination religieuse. Il s'est vu refuser la collecte d'échantillons de roches dans le Grand Canyon. Le but de sa recherche était de mettre en évidence que les différentes couches sédimentaires et les fossiles du site auraient été déposés lors du grand déluge biblique il y a 4300 ans. Une thèse créationniste qui va à l'encontre du consensus des géologues qui estiment que le Grand Canyon aurait été créé entre 5 et 6 millions d'années. Et puis pour finir, le serpent brun qui change de goût avec les années. Les chercheurs ont découvert qu'au cours de sa vie, la composition du venin de ce serpent évolue, lui permettant de chasser des proies différentes. Ce cousin du cobra royal qui vit en Australie et son venin sont très étudiés car à l'origine de quelques décès en Australie, les jeunes individus ont un venin qui attaque le système nerveux et se nourrissent d'animaux à sang froid comme les lézards. Et avec le temps, la composition du venin évolue et empêche la coagulation, la circulation sanguine. Le serpent se nourrit alors d'animaux à sang chaud, comme les petits mammifères. Cette évolution très rapide permet donc aux prédateurs de se prémunir contre une éventuelle adaptation des proies à son poison. Et l'infini, c'est le dossier de l'émission dans un instant, avec vos messages qui arrivent déjà vertigineux sur le site de l'émission franceinter.fr.
Catherine the Great, let's talk of love and the power of the state. She was a crazy, spontaneous girl. Everyone paid homage to her. Catherine the Great, there were few brainier. Just ask the king of Lithuania. She could dictate what went on anywhere. She had great hair and
and a powerful gate, Catherine the Great. Catherine the Great. She could converse with the best. She knew Voltaire, Diderot, and the rest. She might have conquered a third of the world, but inside she was a sensitive girl. Catherine the Great, with her military might, she could defeat anyone that she liked. And she looked so bloody good on a horse that they couldn't wait for her to invade. Catherine the Great.
Catherine the Great, c'était la Divine Comédie.
La tête au carré sur France Inter.
Et l'infini qui s'invite dans l'émission cet après-midi pour en comprendre la conception dans des domaines scientifiques comme les mathématiques, la physique, la cosmologie. Marc Lachaiserie, vous êtes avec nous. Vous êtes astrophysicien, théoricien, cosmologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à Paris Diderot. Et oui, tout ça pour vous. Et vous avez publié avec Jean-Pierre Luminet de l'infini, horizon cosmique, multivers et vide quantique chez Duno. Jean-Jacques Cécignard, vous êtes philosophe et mathématicien, directeur du département Histoire et Philosophie des Sciences à Paris Diderot également. Et puis Hugo Duminil-Copin, mathématicien. Vous êtes lauréat du prix de la Société mathématique européenne et vous êtes professeur à l'IHES, c'est l'Institut des hautes études scientifiques. Vous êtes chercheur en probabilité, on en avait déjà parlé sur l'antenne avec les messages qui arrivent donc sur franceinter.fr. Ben, j'aimerais tiens vous donner cette première question qui nous arrive de Saïd. Il nous dit ceci, que l'infini se pense au pluriel n'est pertinent qu'à la condition d'un accord préalable sur une définition du concept d'infini. Eh ben, on va commencer par ça. Qu'est-ce qui définit l'infini? Alors, qui veut s'y coller, Jean-Jacques Cécignard, par exemple?
Ouais, je vais commencer par donner des aperçus, parce qu'il n'y a pas de définition à proprement parler.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a rencontré des difficultés, on a essayé de clarifier ces difficultés. Et je donnerai un préalable qui me paraît le plus intéressant, c'est que l'infini, à première vue, c'est une notion paradoxale. Il y a toutes sortes de paradoxes, et c'est ça qui est intéressant, et que dans l'histoire, on a précisément cultivé ces paradoxes, on les a rationalisés pour donner des définitions de l'infini.
Ouais, mais qu'est-ce qui peut être paradoxal alors avec l'infini?
Alors, je vais directement sauter au 19e siècle, parce que c'est
là. Ah, carrément. Alors, mais, on oublie tout ce qui est avant. Hop,
alors, non, on peut dire avant, bien avant.
L'Antiquité,
chez les Grecs. Ouais. Chez les Grecs, bon, il y a une méfiance de l'infini, de la plupart des philosophes et cosmologues. Il y a même un refus de l'infini comme étant synonyme de l'illimité, de l'indéfini, et donc chez les grands philosophes et logiciens et physiciens comme Aristote par exemple, il y a un refus de l'infini.
Mais pourquoi? Ça vient concurrencer quoi alors exactement?
C'est-à-dire qu'on ne peut pas cerner cette notion, ce qui est cernable, définissable, c'est ce qui est limité et qui est contrôlable par la pensée. Alors maintenant, juste un mot avant de laisser la parole à tout le monde, c'est qu'il y a au moins disons, une distinction à faire entre deux sortes d'infini. Et je pense que cette distinction, elle a couru à travers toute l'histoire de l'infini. Il y a ce qu'on appelle l'infini en puissance ou l'infini potentiel. C'est ce qui est prolongeable, mais dont on sait que c'est prolongeable. Mm-hmm. Donc on peut toujours continuer, mais on a thématisé le fait qu'on puisse toujours continuer. Et puis il y a ce qui est apparu de façon parfaitement thématisée au XVIIe siècle, mais qui l'était déjà bien avant, qui est l'infini en acte, c'est-à-dire l'infini tout donné d'un seul coup à la fois. Et ces deux notions-là ont concurrencé. Et ce que refusent Aristote et la pensée grecque, c'est l'infini en acte, avec les conséquences que ça aurait, par exemple, pour une définition cosmologique, pour le besoin d'avoir une sphère qui va définir l'univers. On ne peut pas penser l'idée qu'il y aurait une sphère infinie. Et donc Aristote développe toutes sortes d'arguments pour refuser cet infini en acte. Donc voilà, ça sur et donc je vais sauter juste et puis après je vous laisse la parole.
Oui, parce qu'il trépigne, hein, Marc Lachaiserie, Hugo Dumini, pour nous donner leur définition de l'infini.
Après sur les paradoxes de l'infini, ce sont des paradoxes qui ont souvent ou la plupart du temps trait au rapport entre le tout et la partie. C'est-à-dire que la partie, comment est-ce que une partie pourrait être elle-même infinie étant partie de d'un ensemble qui est lui-même infini. Et l'un des grands philosophes qui a développé, logicien, mathématicien, qui a développé toute cette thématique, c'est Bolzano, dont les paradoxes de l'infini, et qui ont été repris par un des créateurs de la grande théorie des ensembles, Cantor Dedekind. Et Dedekind donne comme définition de l'infini, ce qui est pour nous parfaitement paradoxal, mais c'est ça qui est bien. Hein. L'infini, c'est ce qui est, disons, peut mettre en correspondance avec une de ses parties propres, de ses propres parties. Et à partir de là, il faut essayer de réfléchir.
C'est compliqué à conceptualiser, hein, voilà. Évidemment. Alors, Marc Lachaiserie, parce qu'évidemment, cette notion, il y a de la passion, il y a de la controverse, vous le rappelez dès le début de votre ouvrage. Hein.
Oui, mais pas tant que ça, peut-être, de la controverse, parce que quand on regarde l'histoire de l'infini depuis l'Antiquité, qui est extrêmement intéressante, et qui sous-tend toutes les mathématiques, et toute la physique, et toute l'astronomie, la cosmologie, on s'aperçoit qu'au début, l'infini, c'est vraiment une difficulté, c'est quelque chose qui fait peur, qui fait horreur, d'une certaine manière. Et puis, petit à petit, on voit que les mathématiciens, les physiciens, les astronomes vont apprivoiser l'infini. C'est comme une bête sauvage. Et Jean-Jacques a cité Bolzano. Bon, Bolzano, il y en a d'autres, effectivement, en physique aussi. Et puis, ça continue jusqu'au XXe siècle. Petit à petit, on va arriver à l'apprivoiser, c'est-à-dire, par exemple en mathématiques, à calculer avec l'infini comme si c'était un nombre ordinaire, à faire des additions, des multiplications, des choses comme ça. Et pour ça, il y a un prix. Un des prix, c'est un prix à payer, c'est de reconnaître que justement, il n'y a pas un infini, mais plusieurs infinis. Alors, il s'agit ici, quand on calcule avec, plutôt d'infini en acte qu'infini en puissance, parce que l'infini en puissance, c'est pas quelque chose qu'on manipule, c'est plutôt une idée. Mais il y a aussi les grands infinis, les petits infinis, il y a les infinis.
Ah oui, il y a tout ça, il y a différentes tailles, on pourrait dire.
Non, parce qu'il y a les infiniment grands, les infiniment petits.
Ouais.
Et intuitivement, si vous prenez l'inverse d'un grand infini, c'est un petit infini. Et quand on va faire de la physique, par exemple, on va être confronté aux deux, parce qu'on va s'apercevoir que dans certaines circonstances, il y a des quantités comme l'énergie qui tendent vers l'infini. Au contraire, on va toujours se demander si, quand on va fouiller la matière aux petites échelles, on va pouvoir fouiller jusqu'à l'infiniment petit ou bien si l'on va arriver à des objets qui ont des tailles bien déterminées. C'est ce qu'on appelle par exemple les particules élémentaires. Pareil, on peut se poser la même question pour l'espace et le temps. Est-ce que le temps, on va pouvoir le découper infiniment jusqu'à zéro, ou bien est-ce que il existe dans la nature une sorte de quantum élémentaire de temps, c'est-à-dire une espèce de durée élémentaire? Les physiciens appellent ça peut-être la durée de Planck ou le temps de Planck, c'est-à-dire que concevoir un événement qui durerait moins que cette valeur, qui est estimé à 10 puissance moins 43 secondes, est-ce que ça a un sens ou ça n'en a pas?
Mais est-ce qu'on a réussi à unifier cet infiniment petit et cet infiniment grand? Est-ce qu'il y a une prolongation logique du petit à l'immense ou pas du tout?
La prolongation, c'est nous. Nous sommes entre deux infinis, comme le disait Pascal déjà. Voilà, entre le grand infini et le petit infini, il y a tout le monde macroscopique qui aussi s'étend sur des tas d'échelles. Ce qu'on appelle l'infiniment petit, c'est-à-dire le monde des particules élémentaires, c'est très petit, mais ça n'est évidemment pas infiniment petit. Et l'infiniment grand, c'est le monde de l'astronomie. C'est astronomiquement grand, mais on sait mesurer, c'est des valeurs finies. Ça va jusqu'à des milliards d'années-lumière, mais c'est pas encore l'infini. Et on se demande encore, aujourd'hui, est-ce que si on voulait se balader dans l'espace, on pourrait aller jusqu'à l'infini ou pas? C'est une question qui reste ouverte.
Et aller jusqu'à l'infini, ça peut prendre du temps, effectivement. Hein.
Alors, Hugo, on en reparlera peut-être,
Hugo Duménil, c'est ça, surtout à la fin.
Ben, peut-être je peux rebondir sur deux choses qui ont été dites avant, les difficultés avec l'infini et puis le calcul avec l'infini. Peut-être partir de, je vais adopter les mots d'un grand mathématicien, Hilbert, pour vous essayer de vous expliquer un problème qui peut arriver quand on essaie de concevoir l'infini. Imaginez que vous soyez le gérant d'un hôtel infini.
Ah oui, ça peut exister.
Il y a une infinité de chambres dans votre hôtel, et puis dans chacune de ces chambres, c'est des chambres ou une place. Imaginez qu'il y a une personne. Donc votre hôtel est déjà plein, complètement plein. Bon, maintenant arrive un nouveau client, et il aimerait bien s'installer dans votre hôtel, se loger pour la nuit. Et ben dans un hôtel infini, vous pouvez le loger, même si l'hôtel est déjà plein avant. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste demander à chaque client de se décaler d'une chambre, d'aller dans la prochaine chambre. Donc le client qui était dans la première chambre va dans la deuxième, celui dans la deuxième, dans la troisième, etc. Et puisqu'il n'y a pas de fin, bah, chacun de vos clients va pouvoir retrouver une chambre. Mais qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de libérer la première chambre. Donc vous pouvez, votre nouveau client, vous pouvez le mettre dans la première chambre. Donc ça, c'est quelque chose que les penseurs, pendant des millénaires, ont refusé. Cette idée que l'infini plus un, en quelque sorte, bah, c'est l'infini. Il n'y a pas plus de clients qu'avant, puisqu'il y a un client par chambre. Et toute la force des mathématiciens du 19e siècle, ça a été de dire non, mais il n'y a rien d'absurde là-dedans. Au contraire, c'est la définition même de l'infini. Un ensemble infini, c'est un ensemble où on peut faire ça. Et là, il y a un inversement complet de la vision qu'on a pu avoir sur l'infini, du moins du point de vue mathématique. C'est qu'avant, l'infini, c'était ce qui n'est pas fini. Et maintenant, au contraire, en fait, la définition d'un ensemble fini, c'est ce qui n'est pas infini. Et on a utilisé ça, on a créé du calcul, on a dit l'infini plus 1, c'est l'infini. En fait, l'infini plus 2, c'est encore l'infini. 2 fois l'infini, c'est l'infini, etc. On a fait un calcul dont parlait Marc. Et
donc, les mathématiques sont très à l'aise, finalement, avec ça.
Très à l'aise avec ça.
Et ça fonctionne très bien.
L'une des beautés qui émerge de cette théorie, c'est que 2 à la puissance l'infini, eh ben, c'est pas l'infini. C'est un infini encore plus grand. Donc il y a différents types d'infini.
C'est ça, ouais. Alors Alain nous dit, je suis instituteur en retraite. Souvent, la première approche de l'infini vient chez les enfants de CP et CE1 à travers la suite des nombres. Et cette question, est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Jacques Cécignartz?
On peut montrer aujourd'hui que ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, mais c'est pas pour autant effrayant. C'est un aspect positif de l'infini et ça, la suite des nombres. Alors c'est un infini
c'est qu'il y a de la place pour tout le monde finalement. C'est ça, beau, l'aspect positif.
Alors ce qu'il faut dire, alors ce qui est tout à fait là très passionnant, c'est que c'est un certain type d'infini. D'abord, c'est ce qu'on appelle l'infini dénombrable, c'est l'infini des nombres entiers, et il est très grand comme infini. Mais on montre aussi assez facilement, en particulier à partir du 19e siècle, qu'il y a plus grand que lui encore, qu'il y a plus grand que l'infini dénombrable, qui est l'infini non dénombrable. Hein, et que donc on peut donner des exemples, enfin je ne vais pas vous... Mais c'est le grand mathématicien Cantor qui a construit... ce nouveau type d'infini, il les voyait, il les a laissés s'engendrer, il était tellement émerveillé par ce qu'il disait, il y a une phrase très célèbre, il dit « je le vois, mais je n'y crois pas ».
Ouais. Il a bâti une théorie là-dessus ?
Ah oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle la théorie des ensembles infinis, qui est très développée, mais qui est encore pleine de conjectures, pleine de surprises et pleine d'idées passionnantes.
Hugo Duminil.
Oui, juste un tout petit mot.
Oui, un petit mot, parce que l'émission est finie par contre, enfin, au moins dans son temps, et on doit passer un disque dans un instant.
Juste l'exemple d'un infini qui est plus gros que cet infini dénombrable, c'est pas un infini qui est si impressionnant que ça, c'est juste l'infini des nombres à virgule. Les 0, blabla, 0,33333, 0,37, 0... Ça, c'est un infini qui est plus gros que l'infini des entiers.
Est-ce que pi, c'est un exemple aussi de...
Alors, pi, c'est un élément d'un ensemble. Donc, c'est... On a beaucoup parlé de pi en rapport avec l'infini parce qu'il y a une infinité, quand on l'écrit en langage décimal, il y a une infinité après la virgule. Mmh. Donc, c'est un exemple d'élément de cet ensemble qui est plus gros que l'infini des nombres entiers, qui est un énorme infini.
Allez, Marc Lachaiserais, un petit mot, puis on se retrouve juste après.
Oui, juste que si on veut écrire le chiffre pi autrement que la lettre pi, on ne peut pas, parce que si on voulait l'écrire rigoureusement, il faudrait écrire une suite infinie de décimales, et donc c'est quelque chose qui fait intervenir la notion d'infini dans tous les nombres qu'on manipule. Racine de 2, si vous avez un carré qui a un mètre de côté, et vous voulez mesurer la diagonale, eh bien vous apercevez que le nombre qui mesure cette diagonale, qui est racine de 2, si vous vous vouliez les écrire, il faut un nombre infini de décimales. Et ça, ça a été un scandale quand on a découvert ça dans l'Antiquité.
Juste avec ce fait que quand Marc dit infini, un nombre infini de décimales, il n'y en a pas qui se répéterait de manière contrôlable, de manière comme s'il y avait comme une période. Mm-hmm. Donc, et c'est ça qui fait que c'est véritablement très infini, si je puis dire.
Allez, on se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et l'infini, ça fait rire, oui. Concert ce soir en direct sur France Inter, vous pourrez l'entendre à partir de 20h, c'est Camille avec Fontaine de lait.
Faudrait que ça s'enfuite partout à la fois.
C'est ça ce que je cherche en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a de l'infinité partout.
Absolument.
Et il n'y a pas de limite dans aucun horizon. Au contraire, c'est à partir de l'horizon qui commence l'infini. Et... tandis que nous sommes limités toujours par des horizons physiques.
Et c'était la voix de Salvador Dali pour notre dossier consacré à l'infini avec mes invités Marc Lachaiseret, Jean-Jacques Cécignartz et Hugo Duminil Copin. Marc Lachaiseret, dans les grands noms évoqués justement autour de cette histoire qui a commencé depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, hein, finalement. Giordano Bruno, il a joué un rôle particulier quand même.
Alors, Giordano Bruno a été un grand enthousiaste de l'infini et dans une période et dans un contexte où il était quasiment interdit de parler d'infini, c'est-à-dire qu'on était toujours dans la conception du monde issue de Platon et d'Aristote, un monde fini, un monde clos, et qui était limité par une ultime sphère qu'on appelait la sphère des fixes et qui était censée supporter les étoiles. Donc le monde à cette époque était pensé comme un monde centré sur la Terre, hiérarchisé, fini et avec une frontière.
Inacceptable pour l'Église, donc, de parler
d'infini à
l'époque.
Alors, c'était complètement inacceptable de parler d'autres mondes. Et en fait, Bruno reprenait des idées qui avaient déjà été émises et développées par les atomistes de l'Antiquité grecque. Mmh. Et évidemment, ça pose des problèmes au dogme chrétien. Mais Bruno a été un enthousiasme. Il a écrit des pages extrêmement poétique et extrêmement intéressante. Ça a été aussi un grand précurseur du point de vue scientifique, parce que ce qu'il écrit, c'est tout à fait vraisemblable. Et disons que Kepler, ensuite, lui, était... Pourtant, Kepler, quelqu'un qui est rempli d'imagination, tout ça, on est à la charnière du 16e, du 17e siècle. Du 15e et du 16e siècle, plutôt.
Le 17e.
Et donc, Kepler a été beaucoup plus frileux et il a critiqué Giordano Bruno en donnant des arguments qui étaient censés montrer que le monde ne peut pas être infini. Bon, et puis ces arguments ont été repris et on peut considérer que pendant toute l'histoire de l'astronomie, de la cosmologie, il y a eu un grand débat entre monde fini, monde infini. Et ce débat n'est pas réglé aujourd'hui, mais ce qui est réglé, c'est le fait que du point de vue conceptuel, on est tout à fait autorisé à penser un monde infini sans paradoxe et également un monde fini sans frontières, sans paradoxe. Et ceci uniquement grâce au progrès des mathématiques au XIXe siècle, à savoir l'invention d'une nouvelle géométrie qui s'appelle la géométrie riemannienne et qui est à la base des théories relativistes d'Einstein.
Hugo Lumini, là.
Oui, j'imagine que un exemple qu'on peut donner, c'est d'objection à avoir un univers fini, ce serait quel est son bord ?
Oui, c'est le.
Si c'est fini, il y a un bord. Et ce à quoi Marc réfère est le fait que on a imaginé au XIXe siècle des mondes, des univers finis qui n'ont pas de bord, justement. Et pour vous imaginer, on peut se dire que c'est difficile à imaginer, mais imaginez qu'on vive dans un monde deux-dimensionnel. Qu'on soit un petit carré dans un monde deux-dimensionnel et qu'on essaye de découvrir le bord du monde. Bah, si on était sur une sphère, si on était sur la Terre, ben, on pourrait se déplacer sans jamais voir le bord de la Terre. Et pourtant, la Terre est finie. Donc, il y a une différence entre un bord, avoir un bord, et être fini. Il y a des univers finis qui ont un bord, qui n'ont pas de bord.
Ça, Jean-Jacques Sessignat. Oui,
non, mais là, il fait allusion à un texte de Riemann, le grand mathématicien qui a créé une géométrie, disons, non euclidienne, où il explique exactement ce que vient d'expliquer Hugo. Dire que si on se déplace sur la sphère, il y a une différence, c'est illimité, mais c'est fini.
Et les trous noirs, alors, justement, Marc Lachaiserey ?
Oui,
puisqu'on parle de bord.
Les trous noirs, c'est quelque chose d'assez surprenant, parce que c'est quelque chose qui mélange l'infini et le fini. Et un trou noir se caractérise par l'existence de ce qu'on appelle un horizon, qui est une sorte de surface fictive entourant le trou noir. Et d'ailleurs, il y a d'autres horizons qu'on peut rencontrer en astrophysique, en cosmologie. Mais ce qui caractérise l'horizon, c'est que c'est un lieu qui, en même temps, est à une distance finie de nous, mais en même temps, n'est pas atteignable en une durée finie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui, spatialement, est dans le fini et temporellement, si vous voulez, si on voulait l'atteindre, effectivement, il faudrait un temps infini. Et même pour la lumière, il faut un temps fini. Ce qui veut dire qu'il n'arrive finalement aucune lumière de cet horizon. C'est pour ça qu'on appelle un trou noir noir, parce que aucune lumière ne peut en provenir. Ouais. Mais pour revenir aussi sur ce qu'on disait juste auparavant, la cosmologie scientifique moderne est née en 1917, où Einstein utilise sa nouvelle théorie de la relativité qu'il vient de mettre au point pour proposer le premier modèle cosmologique, le premier modèle du monde relativiste. Et son modèle a une originalité tout à fait surprenante, c'est que l'espace est supposé fini, mais sans frontières. Et c'est ce qu'on appelle une trois sphères. Et dans un espace comme ça, qui n'est concevable que justement grâce à cette nouvelle géométrie riemannienne inventée au XIXe siècle, dans un espace comme ça, si vous partez tout droit, vous prenez une fusée et vous partez tout droit, au lieu d'aller jusqu'à l'infini, vous allez toujours tout droit, et après avoir parcouru une certaine distance qu'on va appeler la circonférence de l'univers, eh bien vous revenez à votre point de départ. Et donc, c'est quelque chose qui est fini, parce que c'est de circonférence finie, de volume fini, mais qui n'a aucune frontière.
C'est difficile à concevoir.
Mais justement,
c'est quand même très complexe.
C'est difficile à concevoir, mais moi j'insiste, je dirais pédagogiquement ou mathématiquement, si vous voulez, c'est que c'est justement ça qui fait l'intérêt de cette notion de l'infini. C'est que c'est une notion qui n'est pas intuitive, mais dont les paradoxes, sous l'apparence desquelles elle se montre, elle se révèle, ce sont ces paradoxes-là qui vont permettre de la construire et d'en faire un concept. Si vous voulez, c'est comme Hugo tout à l'heure a expliqué que l'infini devient une notion positive sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Je prends un seul exemple un exemple du XVIIe siècle. Vous regardez deux droites parallèles. Bon, on dit que dans notre géométrie, deux droites parallèles, elles sont parallèles, elles se rencontrent pas. Et puis il y a les droites qui se rencontrent. Mais si je dis, comme l'a fait le géomètre Desargues, que des droites parallèles, elles se rencontrent à l'infini.
Oui.
Alors là, ça,
c'est compliqué à comprendre. Hein.
Bah, vous regardez le train avec les rails,
oui.
Du point de vue de la perspective. Quand vous vous éloignez, les rails finissent par... Vous avez l'impression qu'elles se rejoignent. Oui. Bien, il suffit de
visuellement. On a une vision.
Oui,
mais,
Et c'est la perspective de la perspective italienne. Enfin, c'est les peintres de la Renaissance qui ont introduit ce point de vue, ce point dans une perspective cavalière, qui est le point dans lequel les parallèles se rencontrent.
Oui.
Et à partir de là, on crée une géométrie extraordinairement puissante.
Mais c'est très contre-intuitif, hein, on est d'accord.
Oui, ouais. Mais regardez, vous prenez quelque chose qui est tangent. Vous pouvez intuitivement, vous avez une courbe et une tangente à cette courbe. Mmh. Vous pouvez considérer, il y a énormément d'objets en mathématiques, comme ce qu'on appelle des asymptotes. On va dire des asymptotes, c'est quelque chose qui est tangent, mais à l'infini.
Mmh. Allez, on va écouter un extrait, s'il vous plaît, d'un documentaire d'Arte pour illustrer justement la question de l'expansion de l'univers, parce que là aussi, il y a des questions qui se pose autour de l'infini, c'était diffusé en 2011.
Je vais vous expliquer ce qui se passe dans un univers en expansion. Imaginons un univers hypothétique, unidimensionnel, où ces balles de ping-pong représentent les galaxies et l'élastique, l'univers qui les sépare. Plus l'univers s'étend, plus les balles s'éloignent les unes des autres. Et c'est l'univers tout entier qui s'étend. Plus il y a d'espace, plus on a l'impression que les galaxies les plus lointaines s'éloignent de nous.
La découverte de Hubble est une des avancées les plus importantes de l'histoire de l'astronomie. L'univers n'est pas statique, il ne cesse au contraire de grandir.
Si ces galaxies s'éloignent les unes des autres, c'est parce que l'espace qui les sépare est en train de croître. Cette conclusion relève du génie.
Ah oui, mais ça pose quand même une question, cette histoire d'univers en expansion, Marc Lachaiserey. Donc, il y a cette idée de dilatation au cours du temps. Mais cette dilatation, alors, elle est éternelle, elle est infinie. Ou est-ce qu'un jour, justement, elle va revenir en arrière et imploser d'elle-même? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui de ça?
Bon, alors, effectivement, c'est la question fondamentale de la cosmologie. Disons que l'expansion de l'univers, c'est le fait fondamental sur lequel se fonde notre cosmologie. Petite rectification, d'ailleurs, c'est pas Hubble qui a découvert l'expansion de l'univers, parce que Hubble est mort en ne croyant toujours pas à l'expansion de l'univers, mais c'est plutôt Georges Lemaître, maître physicien belge, enfin disons que c'est un peu les deux. Bon, en tout cas, cette expansion, justement, ce qu'a montré Georges Lemaître, par un raisonnement que je ne vais pas reproduire ici, mais qui est extrêmement simple, c'est qu'elle ne peut pas durer depuis un temps infini. C'est-à-dire que, en gros, en simplifiant le raisonnement, puisque ça... c'est en expansion.
Ouais.
Ça veut dire qu'il y a un moment où c'était quasiment tout concentré.
Il y a eu un point de départ. Hein.
Ça veut dire qu'il y a un point de départ. Oui, c'est ça. C'est le début de notre récit cosmologique. C'est ce que quelquefois on appelle le Big Bang.
Ouais.
Aujourd'hui, on voit les choses un peu différentes en faisant intervenir des processus quantiques. Mais enfin, en gros, c'est ça. Ça veut dire que l'expansion telle qu'on l'observe, elle dure depuis un temps fini qu'on appelle l'âge de l'univers. Pourquoi on appelle ça l'âge de l'univers? Parce qu'on peut montrer que aucun objet, quel qu'il soit, que ce soit une planète, une étoile, une galaxie, ne peut exister depuis plus longtemps. On l'estime à 13,7 milliards d'années par des moyens très compliqués qui font l'intérêt de la cosmologie. Mais c'est donc une sorte de début du temps. Et ça répond à une question qu'on se pose depuis très longtemps. Est-ce que le temps est infini dans le passé? Est-ce que l'univers dure depuis un temps infini? Et puis évidemment, on peut se poser la même question dans
le
futur.
Sens.
C'est ce que posait votre auditeur. Eh bien, là, il y a deux théories qui se font concurrence. Soit l'expansion va durer éternellement, donc jusqu'à l'infini, et c'est la théorie qu'on semble adopter
aujourd'hui.
Ouais. Soit on aurait pu penser que l'expansion se ralentit petit à petit jusqu'à arriver à un certain point d'expansion maximale où l'univers ne peut pas rester en équilibre et il va se remettre à se contracter jusqu'à
comme
une sorte de symétrique du Big Bang qu'on appelle le Big Crunch. Alors aujourd'hui, on a tendance à éliminer cette version-là de la cosmologie future, mais sait-on jamais.
Ouais. Hugo Dumini, il y a une question pour vous de Richard. Où le zéro serait-il le début? Est-ce que c'est le début de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand? Alors, s'il fallait le placer sur l'échelle mathématique, vous avez 30 secondes pour répondre à cette question.
Dans la construction mathématique, le premier infini qu'on construit, ce sont les entiers. Donc zéro, de ce point de vue-là, est le premier infini. Le premier élément qui permet ensuite de construire...
Mais on peut situer zéro sur l'infiniment petit?
Il y a des millions de définitions différentes de zéro et des millions d'endroits où il interagit, il intervient de façon différente selon qu'on fait de l'analyse, de l'algèbre, de la géométrie.
Allez, on se retrouve dans un instant, dernière partie de notre discussion sur l'infini, avec d'autres questions pour vous de la part des auditeurs sur franceinter.fr. Le temps de retrouver un petit souvenir des années 90, vous allez la reconnaître, c'est la voix de Dido avec Thank You. Bon après-midi à tous.
Précise aux mathématiques dans le texte sur de Paris. Partout où est l'infini et où il n'y a pas infinité de hasard de perte contre celui de gain, il n'y a point à balancer, il faut tout donner. Et ainsi, quand on est forcé à jouer, il faut renoncer à la raison pour garder la vie, etc.
C'est exactement ça l'espérance mathématique. Dans le cas de Pascal, elle est toujours infinie. À moins que la probabilité de salut ne soit nulle, puisque l'infini multiplié par zéro égale zéro. Donc l'argument ne vaut rien pour quelqu'un qui est absolument incroyant.
Mais si tu crois tant soit peu, elle redevient infinie.
Oui, alors tu dois varier.
Oui, si je crois qu'il y a probabilité, et si je crois d'autre part que le gain est infini.
Ce que tu crois, toi?
Oui.
Voilà, extrait de Ma nuit chez Maud d'Éric Rohmer, la voix de Jean-Louis Trintignant, que vous avez reconnu, c'était en 1969. J'aimerais bien avoir une réaction de mes invités, là. Je vous ai vu écouter attentivement cet extrait. Jean-Jacques Cécignard, pour commencer.
Voilà, ça serait long, mais donc il s'agit du très célèbre Paris de Pascal, qui a été interprété de manière très diverse. Mais en gros, il vous dit que vous avez un intérêt absolu à parier, hein, puisque vous n'avez rien à perdre.
Oui.
Hein, mais c'est fondé sur un calcul d'espérance mathématique dont Hugo doit être plus spécialiste que moi. mais qui, pour, sans doute pour une des premières fois, introduit l'infini dans son argumentation.
Ouais.
Maintenant, je connais beaucoup de textes qui ont commenté ce pari de Pascal. Simplement, il faut dire, faut souligner que Pascal est un de ceux qui a vraiment assimilé, intégré une nouvelle conception de l'infini, celle du XVIIe siècle. Mm-hmm. Et je termine par cette phrase de Pascal qui dit les espaces infinis nous effraient.
Hein, donc,
le silence des espaces infinis. Le silence, ça a un sens. Hein, ça veut dire que les armures, tout ça, ça s'est écroulé. Tout l'univers du Moyen Âge s'est écroulé, et nous sommes maintenant dans un univers infini.
Hugo Duminil. Ouais. Alors toujours pour réagir.
Je vais être moins poétique, mais moi, il y a quelque chose où j'avais envie de m'étrangler. C'est l'infini fois zéro, c'est zéro.
C'est justement
toute la subtilité de l'infini, c'est que l'infini fois zéro, c'est pas toujours zéro.
Ah non, mais alors.
Et c'est là où on voit la richesse du concept et le potentiel en fait du concept.
C'est compliqué à expliquer ça ou pas?
En fait, quand on dit l'infini fois zéro, c'est une des opérations qu'on n'a pas le droit de faire avec l'infini, c'est de multiplier par zéro. Et en fait, quand on donne un sens mathématique à ça, en prenant la notion de ce qu'on appelle limite, en fait, selon les limites qu'on prend, l'infini fois zéro, parfois ça vaut l'infini, parfois ça vaut 1, parfois ça vaut pi, parfois ça vaut...
Marc Lachaiserais.
Oui, mais Trintignant et Pascal parlent de probabilité. Pascal était un des fondateurs d'ailleurs des probabilités qui sont très bien fondées en mathématiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait dans la vie courante un usage des probabilités qui souvent est assez aberrant, c'est-à-dire que quand on dit qu'un événement est probable ou improbable, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, et en physique non plus. Par exemple, si je considère n'importe quoi qui m'arrive en ce moment, par exemple le fait que je sois dans ce studio avec toutes ces lumières éclairées, etc., la probabilité que ça arrive était strictement zéro. Et donc, tout ce qui nous arrive...
À l'échelle de l'univers.
Tout ce qui nous arrive est extrêmement improbable. Et en revanche, il est tout à fait probable que des choses improbables arrivent. Alors, donc, voilà, on est dans ces situations avec les probabilités extrêmement contre-intuitives, et l'usage répandu dans les journaux, dans les sondages des probabilités est très souvent complètement aberrant.
Hugo Duminil.
En fait, toute la théorie des probabilités est basée sur cette étude de ces événements qui n'arrivent pas, entre guillemets. C'est ces événements-là qui sont intéressants, c'est ceux-là qu'on étudie en probabilité.
Ouais, et il y en a beaucoup d'ailleurs à citer.
Il y en a beaucoup.
Ouais. L'infini, alors, on l'a compris, vous nous le disiez, finalement aujourd'hui c'est plutôt bien défini par les mathématiques, il y a un cadre. Ça pose quand même des problèmes toujours aujourd'hui pas dans votre domaine?
On a une définition rigoureuse, mais il ne faut pas croire que c'est une notion innocente. En fait, même les mathématiciens ont des problèmes à cerner l'infini, et l'un des premiers énoncés en fait qu'on peut obtenir avec l'infini est en fait un énoncé qui a été prouvé par Gödel et Cohen comme étant indémontrable. On peut pas décider s'il est vrai ou faux, et on peut pas démontrer s'il est vrai ou faux.
Quel que soit, infiniment indémontrable.
À partir du moment où on fait des mathématiques avec de l'infini, cet énoncé sera indécidable.
Jean-Jacques.
Oui, c'est compliqué. C'est ce qu'on appelait le théorème de Cohen, qui est encore admis. Hein, c'était un théorème de 1962. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant dans cette notion de l'infini, c'est qu'elle nous a obligés à produire des concepts pour essayer justement de la définir. Et au fur et à mesure de l'histoire de l'infini, c'est l'histoire de la production de concepts qui arriverait à cerner certains aspects de l'infini.
C'est ça, finalement, une des définitions.
Oui, mais c'est une définition très vague. Hein. Mais je veux dire, et produire des concepts, parce que il y a dans la manière dont se présente encore cette notion, il y a le fond, c'est du paradoxe, la prise en compte d'un paradoxe, c'est la première étape vers la réflexion mathématique. Mmh. Et ne pas s'en débarrasser. Mais alors, cette culture du paradoxe, ça fait partie des mathématiques.
Et ça fait partie justement de la dynamique des disciplines aussi.
Là, il y a une rencontre extrêmement intéressante entre d'une part la logique et d'autre part les infinis, parce que donc Gödel, dans les années 30, a montré à la grande stupéfaction de tous les mathématiciens qu'il existe des énoncés qu'on ne peut pas démontrer, et dont on ne peut pas démontrer non plus qu'ils sont faux. Donc on ne peut pas démontrer qu'ils sont justes, on ne peut pas démontrer qu'ils sont faux. Et un des premiers énoncés de ce genre, c'est justement qui concerne les infinis, puisque Cantor a montré qu'il existe plusieurs infinis, et il s'est posé la question de savoir si un certain infini était ou non le même qu'un autre infini. Et il s'est avéré que justement cette question était une des questions dont Gödel avait montré qu'elle était indémontrable. Donc on voit finalement une rencontre entre cette physique des infinis qui était tout à fait moderne au début du XXe siècle et la logique mathématique. Et on peut dire que ça a bouleversé les mathématiques et que ça a lancé tout un nouveau domaine de recherche.
Et c'est ce que vous nous racontez d'ailleurs dans ce livre, hein, de l'infini. Horizon cosmique, multivers et vide quantique, c'est chez Dunod avec Jean-Pierre Luminet. Merci à tous les trois. On a touché un peu du doigt le vertige et les paradoxes justement de l'infini. Merci d'être venu nous en parler cet après-midi dans La Tête au Carré. Fabrice Merci. Drouel,
bonjour.
Qui écoutait attentivement oui, la parole de nos invités. Absolument. De quoi parle-t-on aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Fabrice ?
Jacqueline Sauvage, femme battue pendant 40 ans, qui finit par tuer son mari, qui est condamnée et qui finalement est graciée par le président Hollande. Et nous en parlerons avec Nathalie Tomasini et Janine Bonagiunta, qui furent deux de ses avocates.
À tout à l'heure, Fabrice.